France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'épidémie de Covid-19 ne ralentit pas en France. Plus de 7000 nouveaux cas ont été détectés hier pour le deuxième jour d'affilée. Le nombre de patients en réanimation à l'hôpital progresse lui aussi. Une pandémie qui bouleverse notre économie. Le gouvernement a présenté hier son plan de relance pour la France, baptisé France Relance. Il est doté de 100 milliards d'euros sur 2 ans et il doit provoquer le rebond de l'économie, notamment grâce à des aides aux entreprises et à la transition écologique. 30 milliards d'euros sont ainsi débloqués pour accélérer cette transition. C'est historique, selon la ministre Barbara Pompili. C'est ponctuel et insuffisant, selon les écologistes. Nous entendrons par exemple un membre des économistes atterré dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure aussi, nous nous pencherons sur le vote par correspondance aux États-Unis pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Il débute aujourd'hui en Caroline du Nord et il pose de multiples questions face à l'affluence attendue des bulletins à la poste. Les États-Unis, où le candidat démocrate Joe Biden a échangé avec Jacob Blake par téléphone cette nuit. Il était en fait à Kenosha dans le Wisconsin et il a rendu visite à la famille de cet Afro-Américain grièvement blessé par la police à la mi-août. Joe Biden prend donc le contre-pied de son rival Donald Trump qui lui n'a pas rencontré la famille, n'a pas non plus cité le nom de Jacob Blake mardi dernier lors de son déplacement à Kenosha. Notons aussi l'occupation de l'université d'art dramatique et cinématographique à Budapest en Hongrie. Les étudiants dénoncent cette semaine la prise de contrôle des institutions par le Premier ministre Viktor Orban et par son gouvernement. L'université est passée le 1er septembre dernier sous la coupe d'une fondation privée dirigée par des fidèles de Viktor Orban. Orban qui refuse de donner son accord final au plan de relance européen, un plan de 750 milliards d'euros. Le Premier ministre hongrois estime qu'il manque des garanties sur un mécanisme rattaché concernant l'état de droit.
Nouvel horaire, nouvelle durée, mais la promesse reste inchangée, prendre le temps de se pencher sur un objet artistique du moment. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sandra Lucbert pour son livre sur le procès France Télécom, le clarinettiste Michel Portal pour disques et concerts, la plasticienne Oula von Brandenburg pour son exposition, la romancière Lise Charles pour son nouveau roman et la musicienne Yaël Naïm.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 22h15 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Martial Solal, à l'Auditorium de Radio France. Vendredi 11 septembre à 20h, l'Orchestre National de France présente, sous la direction de Gisco Sirven, 3 concertos composés par le prolifique et génial Martial Solal. Avec la participation de Jean-Charles Richard, Denis Leloup, Jean-Paul Séléa, Hervé Célin, Éric Ferrankawa et François Merville. Réservation, maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem nous rejoindra dans quelques minutes pour le réveil culturel. Avant cela, c'est Le Monde Vivant avec Bruno David.
Cliché domestique. Mercredi dernier, ma fille descend à la cave et pousse un cri strident. J'accours, que se passe-t-il? Est-elle tombée? S'est-elle blessée? Non, elle a aperçu un inoffensif habitant de nos logements, Blatella germanica, en bon français, un cafard. Bon, son cri n'est pas totalement injustifié. Un cafard n'est jamais seul. S'il y en a un, c'est que dans l'ombre sont tapis des centaines, voire des milliers. C'est cette pullulation qui dégoûte. Car les cafards sont grégaires et se reproduisent vite. Dans de bonnes conditions de température et d'alimentation, un seul couple peut engendrer en une année plusieurs dizaines de milliers de descendants. Le cafard de nos placards est l'une des 4000 espèces de blattes, insectes d'un groupe qui contient aussi les termites. Quelques-unes seulement prospèrent à proximité des humains, dont la blatte américaine, 4 fois plus grande que la blatte germanique. Les Américains adorent tout ce qui est grand. La blatte germanique, la nôtre donc, ne mesure que 13 à 16 mm. Elle adore l'amidon, les sucres, les graisses, la viande, les cheveux, les cadavres d'autres cafards, mais elle peut s'attaquer aussi au savon, à la colle, au papier, au dentifrice. Comme tous les animaux qui se nourrissent de nos déchets ou de nos stocks, elle est détestée. On la retrouve dans les restaurants, les usines de transformation des aliments, mais aussi dans les hôpitaux, les hôtels, les cantines. Elle est nocturne et se déplace en silence, ce qui nous la fait percevoir comme sournoise, malfaisante. Franz Kafka fait du cafard l'emblème de l'altérité dans sa nouvelle de 1915 intitulée « La métamorphose ». Le personnage principal, Grégor, se réveille après une nuit agitée, métamorphosé en un animal aux nombreuses pattes qui n'est pas nommé. Un mille-pattes ? Un scarabée ? Un cafard ? Le goût immodéré du personnage pour les denrées avariées fait pencher la balance en faveur du cafard. De plus, sa femme de ménage le nomme « vieux cafard », appellation assez explicite. Un roman habile et intelligent, où l'on s'aperçoit suite aux déconvenues auxquelles Grégor fait face vis-à-vis de son entourage, que le monstre n'est pas celui qu'on croit. Un roman sur le désespoir qu'engendre la mise à l'écart, sur le rejet social de la différence. Un vrai truc à avoir le cafard. Originaire de l'Asie tropicale, la blatte est sensible au froid. C'est pourquoi elle cherche à entrer dans les maisons, voire dans les ordinateurs. Dans les années 1940 à 1960, les premiers ordinateurs très volumineux dégageaient une chaleur considérable. Les cafards, bug en anglais, s'y installaient bien au chaud et perturbaient la bonne marche des systèmes. Il y a un bug signifiait alors vraiment « il y a un cafard ». Le terme « bug » est resté pour désigner un dysfonctionnement informatique, bien que les cafards n'élisent plus domicile dans nos machines compactes et froides. Ah, mon ordinateur vient de me lâcher. Un cafard m'impose de clore cette chronique.
Mettez vos sens en éveil. 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée, tout genre, tout style confondu. Et aujourd'hui, on va évoquer les souvenirs de jeunesse d'une ancienne gloire du football, racontée d'une manière fine et drôle en bande dessinée, par une jeune dessinatrice qui monte. Vikash, Dorasso et Emily Gleason sont mes invités aujourd'hui à l'occasion de la sortie en librairie de Je perds pas la boule, une bande dessinée éditée par Revival.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Emily Gleason, bonjour Vikash Dorasso.
Bonjour.
Vous racontez votre jeunesse à travers les traits d'Emily Gleason. Mais d'abord, puisque vous racontez à Emily Gleason votre jeunesse, vous saviez depuis le début qu'elle n'était pas du tout fan de football, Emily Gleason. C'est ça qui vous a plu ?
Peut-être. En tout cas, moi j'étais fan de sa première BD, puisque on l'a lu. Et puis après on s'est dit, tiens, ce serait peut-être elle qui pourrait dessiner ma vie.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le trait d'Emily Gleason?
Les couleurs, le trait aussi allongé, un peu fou, et plein de choses aussi au même endroit. Et puis l'histoire aussi qu'elle raconte, qui est fabuleuse.
Ted, drôle de coco, vous parlez sans doute de cette première dessinée qui vous a fait connaître et qui vous a valu le prix de la révélation.
Qui a littéralement changé ma vie, pour le coup.
À Angoulême, parce que...
m'a rencontré derrière. Ouais. Ça a changé ta vie. Hein.
Mais dans Ted, drôle de coco, vous parliez de votre frère, d'un sujet plutôt grave, puisque c'était autour du syndrome d'Asperger, et donc inspiré de l'histoire de votre frère. L'idée, c'est le fait que Emily Gleason peut parler de choses très graves d'une manière très fine, c'est-à-dire où l'humour est toujours là.
Oui, et puis déjà les couleurs que tu choisis, sont, et puis le trait donne le ton. Voilà, on va s'amuser quand même, et puis on peut parler de choses très sérieuses. Alors ma vie n'est pas très sérieuse, pourtant, mais
c'est vrai que vous êtes un footballeur atypique à plus d'un titre. Mais quand vous racontez vos souvenirs de jeunesse dans ce quartier populaire du Havre, c'est une jeunesse populaire.
Ouais. Mais ce qui était aussi important, c'est que on fait ce travail à deux. Moi, je lui raconte des histoires. Après, on pourra peut-être en parler. Et puis après, elle a une liberté aussi dans ce qu'elle va dessiner pour reproduire mon histoire. Elle a eu la liberté de finir comme elle voulait, de faire la chute qu'elle voulait aussi. Donc ça, c'était important.
Alors, comment s'est faite cette bande dessinée ?
Comment ça a marché ?
Je perds pas la boule. Vous vous êtes rencontrés. Vikash Dorasso vous a raconté sa vie. Après, vous étiez libre de la réinterpréter, c'est ça ? En petite histoire d'ailleurs, c'est parce que la bande dessinée.
En petit strip, ouais. C'est très nouveau pour moi de d'imaginer la BD comme ça. Mais quand l'éditeur est venu à moi et m'a proposé le sujet, j'étais là, ah génial. Je connais rien au foot, je vais pouvoir m'éclater et justement avoir des libertés sur un sujet dont je n'ai pas déjà été formatée dans un sens. Donc je connaissais pas Vikash non plus, ce qui est assez rigolo. Donc j'avais pas d'idée préconçue de toi, on va dire. Et ce qui m'a permis d'avoir une liberté dans le personnage, parce qu'en plus tu m'as laissé être très libre dessus. Et ça, c'est vraiment, je t'en suis remerciante. Comment dire ?
C'est pas mal, ça.
Je l'ai en espagnol.
C'est pas mal, remerciante.
Mais je t'en suis remerciante, Vikash, parce que j'ai vraiment pu, en fait, m'éclater de bout en bout dans cette BD pour faire ce personnage que je me suis réapproprié à travers donc des anecdotes que tu m'avais écrites par PDF. On s'est vu plusieurs fois aussi pour en parler de vive voix, parce que Vikash a une oralité qui fait qu'il rend ses histoires très vivantes. Et avec une finalité où voilà, il fallait que c'était du strip, il fallait que ce soit drôle. Donc là, on va dire que ma petite pointe d'humour était... de mise.
L'idée, c'était de faire ressentir donc la jeunesse de Vikash Dorasso dans son appartement, avec sa famille, avec ses camarades, dans son quartier du Havre. Et puis, comment rendre compte des odeurs et des sensations? Parce que, vous le dites dans votre bande dessinée Vikash Dorasso, chez nous, ça sentait le curry, ça dansait le Sega. Il y avait les prières
indiennes,
oui. Et on jouait au Boca. Le Boca, c'est un poker mauricien. On apprend plein de choses d'ailleurs sur la culture mauricienne.
Oui, et puis c'est réussi. Voilà, on sent les épices, on sent la couleur, on sent le. Je sais pas. Quand le tout début, je vois l'Inde et l'île Maurice mélangées qui se retrouvent dans la BD. Je vois ma mère en sari. Je vois mon père avec ses pantalons pas de dev des années 70. Voilà, je vois plein de choses qui. Voilà, ça me touche beaucoup. Hein, ce qu'a fait Émilie, parce que c'est pour moi c'est un vrai succès. Ouais.
Et pourquoi raconter votre vie?
Alors. Parce que je sais que faire que ça, moi, je sais que me raconter, je le fais parce que je pense que ça peut avoir du sens pour les gens. Sinon, je le ferais pas, quoi, me raconter juste pour vendre des BD ou des livres, ça n'a pas d'intérêt. Ma bio que j'avais écrite avant, je pense qu'elle avait du sens aussi, et là, je pense que ça a du sens, ne pas se prendre au sérieux, mais quand même raconter quelque chose avec un peu d'humour à la fin. Et puis voilà, c'était aussi un rêve de faire une BD. J'étais fan de Riyad Satouf. Alors ça fait un moment. Alors, ma bio, j'ai pensé à un moment la faire sous forme de BD comme Riyad Satouf.
Mais quand vous dites Riyad Satouf, c'est très intéressant. Vikash Dorasso, c'est le Riyad Satouf de l'Arabe du futur, oui. De Pascal Brutal, lequel?
Plutôt l'Arabe du futur, voilà.
Ah, d'accord, raconter.
Voilà, bon, lui, c'est historique, c'est aussi le voyage plus loin. Bon, voilà, je me suis retrouvé dans ce qu'il faisait, donc je suis assez fier. C'était une sorte de rêve aussi. Parfois, on a le droit. De faire des choses juste pour se faire plaisir aussi, d'une certaine manière. Voilà, je suis content. Et je pense que les gens aussi vont.
Mais l'idée, c'était quoi? C'est de raconter cette histoire dans un quartier populaire quand on est d'origine mauricienne. C'est de raconter le football et surtout ce qui se passe dans le monde du foot.
C'est un peu chronologique. Ça démarre petit dans mon quartier. Puis après, on voit bien que j'ai changé de club, j'ai changé de ville, j'ai changé de pays. J'ai croisé jusqu'à, quand je suis allé au Milan AC, Berlusconi, qui était le président de la République, enfin, le président du conseil là-bas. C'était mon président. Voilà. Ça raconte toutes ces rencontres et aussi le fait d'être un homme de couleur d'origine indienne, mauricienne et qui se balade dans la rue et dans des villes différentes et à qui lui arrive plein d'histoires. Par exemple, juste mon prénom, on le transforme en permanence. On m'appelle parfois Vikash, mais pas toujours.
Ça veut dire quoi, Vikash?
Alors, ma mère m'a dit prospérité et progrès et j'ai envie de croire que c'est ça.
Non, mais je vous pose cette question parce que ce que vous racontez plutôt votre enfance, votre jeunesse et le foot, beaucoup le foot. Je vous pose cette question parce que tout le côté militant qui viendra après votre carrière sportive n'est pas dans cette bande dessinée « Je perds la boule ».
Il y a un petit peu, je pense.
Mais c'est pas tout à fait le Vikash Dorasso militant.
On faisait quelque chose à deux avec Émilie. Voilà, il n'y avait pas que ça. Mais je crois que c'est sa liberté qui a donné un autre ton à la BD, je pense. Moi, si je me raconte tout seul, je vais raconter quelque chose de plus sérieux. C'était pas l'intérêt.
Alors, comment vous avez travaillé avec Vikash Dorasso et Billy Gleason?
On était parti sur une idée de strip, donc je m'étais dit, tiens, c'est effectivement une part de récréation pour toi, et tu me racontes des anecdotes croustillantes sur quelque chose qu'on connaît finalement de loin, qui est le foot, qui est ta jeunesse, et surtout le fait donc d'être un homme indien, le premier indien en Coupe de France, quoi, en équipe de France. Donc j'ai quand même gardé cet esprit de militantisme par certains strips qui sont assez forts, quand tu te fais arrêter par la police, quand on te prend toujours, parce que c'est quand même, je dirais, la base de tout ce que tu as vécu, mais voilà, toujours avec cette couche de paillettes et de couleurs que j'aime tant et qui m'est si fidèle.
Et puis il y a aussi cette manière de voir qu'est-ce qu'on partage. La culture populaire que vous partagez à Vikash Dorasso, c'est quoi, Emily Gleeson?
Alors on en parlait peut-être, mais je suis une grande fan de Bollywood, c'est peut-être la culture qui nous rapproche le plus, ça se voit dans mon dessin d'une part, mais ça se voit dans ma vie aussi, où moi je marche à la Bollywood quand je suis dans la rue, quoi. J'ai besoin de danser et de chanter constamment.
रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना.
Alors, on est bien d'accord, Vikash Dorasso, que dans votre famille, mis à part vos parents qui comprenaient un peu les films de Bollywood, tout le reste de la famille, comme moi, comme Emily Gleeson, c'était beaucoup plus les chansons, l'action qui nous attirait, qui faisait qu'on était scotché devant l'écran.
Oui, si on enlève les chansons, les bagarres, il reste beaucoup moins de films. Hein. Pourtant, ça dure 3 heures. Et c'est vrai que chez moi, mon père comprenait, alors l'hindi et aussi le télégou, puisque nous on vient d'Andhra Pradesh, et il y a une belle scène, hein, c'est une des scènes que je préfère évidemment. Il y a ma famille au milieu et mon père ne traduisait pas grand chose, on attendait la traduction en permanence, donc faudra.
Mais jamais vos parents n'ont voulu vous apprendre leur langue maternelle?
C'est surtout que mon père et ma mère parlaient mauricien, parce qu'eux sont nés à Maurice, c'était leurs parents et leurs grands-parents qui leur parlaient indien, et donc ça a été décalé. Et nous, on se retrouvait à répondre en français à nos parents qui nous parlaient mauricien. Mais après, c'est vrai que c'était un mélange de cultures avec la culture indienne et mauricienne à la maison.
Emily Gleeson, on parle de double culture avec Vikash Dorasso, mais on peut aussi parler de double culture avec vous.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes mexicaine et belge en même temps.
Exactement.
Expliquez-nous tout ça.
J'ai un nom irlandais, donc je suis assez perdue. On m'a pris pour mythomane toute ma vie, dès mes 3 ans en maternelle. La prof appelait mes parents. Votre fille dit n'importe quoi, elle est mexicaine, mais c'est pourtant le cas. J'y suis née.
Une blonde mexicaine, pourtant.
Blonde, yeux bleus, oui.
Ouais, avec des yeux
plus danois possible, et pourtant, je suis pas nordique du tout, mais je dois beaucoup à mes parents parce que ça m'a vachement appris et grandi, fait grandir, je dirais. Grandir dans une famille avec la culture mexicaine aussi présente chez moi, parce qu'on y allait tous les 3 ans. Donc j'y ai vécu mes 2 premières années, je parlais pas français quand je suis arrivée ici. Et c'est un peu ma fierté, quoi, parce que je viens un peu de partout, mine de rien, donc j'ai voyagé avant l'heure.
Et est-ce que ça fait une affinité avec Vikash Dorasso, le fait d'avoir cette double culture?
Je pense que oui, très clairement. Même si la mienne est du coup peut-être moins visible dans un sens, où j'ai pas vécu ce que tu as pu vivre, toi, avec la couleur de ta peau, et donc c'est. Je dirais que là-dessus, je suis un peu une fraude, donc je sais pas comment le dire autrement, mais que. C'est plus dans une question de cœur.
Bon, le football est très présent dans Je perds pas la boule, dans cette bande dessinée qui raconte donc la jeunesse et même l'enfance de Vikash Dorasso. Et ce qui est très drôle et très réussi dans cette bande dessinée, c'est que du début jusqu'à la fin, vous représentez les footballeurs comme des gamins. Non, mais je ne sais pas comment Vikash Dorasso a pris ça. Est-ce que c'est une forme d'hommage? Il y a toujours un côté enfant chez un footballeur? Ou est-ce que c'est aussi une manière d'Emily Gleeson de dire que pour elle, c'est vraiment un jeu de gamin que de courir derrière un ballon?
Alors pas du tout, je le voyais pas comme ça. Maintenant que tu le dis, c'est peut-être évident sur certaines images, mais j'ai un style enfantin, d'une part. Et comme disait Vikash, j'adore distordre les corps. Et voilà, je sais que... On parlait de la taille de Vikash qui a des fois son importance dans les histoires, donc je suis partie là-dessus. Je me suis dit autant faire une caricature pure de lui. Il l'a accepté et c'est cool parce que j'adore ce petit personnage qu'est Vikash dans la BD. Et par la suite, effectivement, pour pas que ce soit trop redondant dans les histoires de foot, je me suis dit, moi le foot je l'ai connu dans la cour de récré, on me laissait pas jouer, j'étais une fille, etc. C'est un peu l'unique souvenir que j'en avais, donc c'est peut-être répertorié à...
Vous direz la même chose, Vikash Dorasso, jouer au football c'est continuer à être gamin?
Oui, alors évidemment, il faut. C'était ma passion. Hein. Après, c'est devenu un réel métier. Hein. Je veux dire, moi, j'ai travaillé, je gagnais ma vie là, avec ce métier. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, des blessures, des mises à l'écart, plein de choses comme ça. Et puis aussi, à la fin, je me suis fait licencier. Donc, c'est pas anodin, quoi. Et puis,
comme un gamin indiscipliné.
Non, mais je veux dire. Le foot m'a offert tellement de choses que j'ai tout intérêt à continuer à croire que c'était juste extraordinaire, magnifique, et c'était un rêve de gamin que j'avais réalisé d'une certaine manière. Voilà. Donc moi, je suis un peu chanceux. J'ai rêvé de jouer une finale de Coupe du Monde, je l'ai fait. J'ai rêvé de jouer au Milan AC, je l'ai fait. Et en même temps, c'était vraiment mon métier aussi.
Alors, parmi les, il y a donc plein de strips, plein de petites histoires dont je perds pas la boule. Et il y a une histoire que j'ai trouvée complètement incroyable. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'il est interdit de jouer au foot quand on a une bague?
Alors ça, c'est une belle histoire parce qu'en plus, moi, je travaillais à l'équipe et je croisais régulièrement Raymond Domenech, ouais, qui était le sélectionneur à l'époque. Et puis, pendant la Coupe du Monde, en fait, on n'a pas le droit d'avoir de bague. Mais par exemple, l'Alliance, j'étais marié à l'époque, l'Alliance, on peut la cacher sous un strap. Mais pas en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il faut enlever toutes les bagues. C'est pour ça que parfois, certains, même en été, jouent avec des gants. Et moi, je voulais pas du tout enlever ma bague. Quoi. Je l'avais jamais enlevé de ma vie. Je l'avais cachée. Et au moment de rentrer, j'ai caché ma main. L'arbitre l'a vu. Donc, il m'a dit d'enlever cette bague. Et là, il faisait quand même 40 degrés, il était 6 heures de l'après-midi en Allemagne. Et je vois Domenech qui me fusille du regard. Et je me dis, mais là, c'est foutu, elle va jamais sortir cette bague. Et en fait, j'ai craché dessus, elle est sortie. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, et je me suis dit, je t'ai bien eu, mec. Et j'ai joué. Parce que je pense que si j'avais pas pu enlever la bague, il faisait pas le changement. Et je pense qu'on me renvoyait en France.
Bon.
Ouais, tout se joue à une bague. C'était bon, rigolo. Et
ça a été très agréable de dessiner ce.
Ah bah, il y a plein de gestuels.
Il y a plein de gestuels. Et puis, même un côté dramatique, c'est très comique. Mais il y a un côté dramatique. Est-ce qu'il va passer à côté d'un match aussi important à cause de ça? À
oui.
cause d'une bague?
Bah, c'est la question qu'on se pose, ouais, clairement.
Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Vikash Thorasso, il y a aussi une prise de conscience politique. Mais ce qui est bien, en tout cas dans cette bande dessinée, dessinée avec Emily Gleason, ça ne s'accompagne pas de discours sentencieux ni de morale. Ça se joue un peu à l'instinct, par exemple. Quand Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de serrer la main au footballeur, vous, par instinct, vous faites tout pour ne pas le rencontrer. Mais c'est même pas expliqué comme si c'était un geste politique.
Bah, c'est un geste politique, hein, mais j'étais piégé parce que, comment dire, je suis quelqu'un de poli, donc je savais que si je le croisais, j'allais lui serrer la main. Donc, alors j'essayais d'éviter, il était quand même régulièrement dans le vestiaire. Mais ça ressemble un peu aussi à être allé jouer au Milan AC. Je veux dire, moi je joue au football, je fais pas de politique à ce moment-là. Et je vais jouer dans le club de la droite dure italienne avec Berlusconi. Mmh. Et pourtant j'y vais.
Mmh. Et pourtant il vous a bien.
Ouais, et puis ce sont les contradictions de la vie. Donc à un moment, Nicolas Sarkozy, je l'ai croisé.
Cet a priori que vous aviez contre Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, ça venait d'où?
Ah, parce que je suis de gauche et il est de droite, et puis c'est... Voilà,
Vous avez toujours été de gauche?
Toujours, ouais, bien sûr. C'est une construction aussi, hein, parce qu'évidemment, chez moi, on est tous de gauche, et puis après, le quartier d'où je viens, les combats, le racisme qu'on a subi, que j'ai subi, les discriminations, les inégalités, tout ça ont fait que j'étais un homme de gauche et je l'ai continué à l'être. Ce qui est très important dans ma construction, dans mon parcours, c'est que j'ai jamais oublié du milieu social d'où je viens, c'est juste ça.
Vous vous êtes présenté aux dernières élections municipales?
Oui.
Dans le 18e arrondissement. Vous habitez aujourd'hui à Paris, donc, et vous avez terminé en quatrième position, avec près de 10% des voix. C'était une manière d'annoncer que vous alliez vous impliquer encore plus en politique et avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise?
Moi, je suis pas de la France Insoumise. J'ai été soutenu pendant cette élection par la France Insoumise. J'ai des valeurs qui sont assez proches. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, C'était pas un coup de tête, hein, mais c'était comme ça, ça s'est présenté parce que on s'était battu pour défendre un petit terrain de sport pour des gamins qui étaient discriminés, et il se trouve que ça m'a donné envie d'aller plus loin et de m'engager politiquement, et notamment dans le 18e arrondissement. J'ai perdu, j'étais pas au deuxième tour, je ne suis pas élu, on verra la suite.
Vous êtes aussi engagé contre l'homophobie dans le milieu sportif et plus particulièrement footballistique.
En fait, mes engagements se rejoignent. Hein. C'est souvent, ma candidature dans le 18e arrondissement était un acte antiraciste. Je suis un homme de couleur et je me présente à une élection, ce qui arrive très rarement et ce qui arrive pas du tout à Paris. Donc c'était hyper important. Donc quand j'ai soutenu le Paris Foot Gay, donc il y a quelques années, j'étais encore footballeur à l'époque, et c'était une façon de lutter contre toutes les discriminations, contre l'homophobie, contre le racisme, contre le sexisme, la misogynie, etc. Voilà, toutes les luttes se rejoignent, et c'est toujours une lutte contre le capitalisme et contre le patriarcat d'une certaine manière.
Quelles sont les lectures qui ont été très importantes pour vous? Je vous dis ça parce que vous avez quand même sorti cette année un petit fascicule, Comment raconter à sa fille l'engagement politique. C'était aux éditions Le Seuil. L'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier.
Voilà. Ouais. C'était un livre d'entretien, une sorte d'entretien fictif avec des enfants, parce que c'est à eux qu'il faut parler, quoi. C'est parce qu'on s'intéresse aux jeunes qu'on reste jeune, d'ailleurs. Et moi j'ai des enfants, donc c'est eux qui vont grandir dans ce monde, voilà, qui me semble parfois un peu hostile.
Mais est-ce qu'il y a un homme politique, un auteur, un philosophe, un mouvement qui a été très important pour vous, pour vous lancer vous-même dans la politique et dans l'engagement?
Oui, moi je pense que c'est vraiment le combat antiraciste, voilà, moi je pense que c'est central. Moi il y a un livre que je viens de lire récemment qui est de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial. Voilà, c'est quelque chose qui est central, et la convergence des luttes, elle peut se jouer là. Voilà,
les discriminations. Qui vous l'a conseillé, ce livre?
Bah c'est elle.
Vous l'avez rencontré?
Ouais, bah c'est une personne que je connais très bien et qui est fabuleuse.
On vous voit
fabuleuse.
Aussi très souvent avec Virginie Despentes.
Ouais, elle, c'est une pote, ouais, bien sûr. King Kong Theory, j'ai relu Vernon Subutex pendant les vacances, juste pour me faire plaisir, et on se parle souvent et je la trouve fabuleuse. Elle, Rokhaya Diallo, c'est des gens. Là, récemment, Alice Coffin, qui s'est battue à la mairie de Paris, et son combat est encore à mener. J'espère qu'elle va le gagner face à Christophe Girard, qui était un élu qui a démissionné. Voilà, c'est des luttes qui sont importantes, et ça, tout se rejoint toujours vers le capitalisme, voilà, et vers la lutte des classes, plein de choses comme ça.
Autant d'idées politiques que vous partagez, Émilie Glisseur.
Oui, complètement. Alors tout ce que dit Vika, je le conçois, mais oui. Alors, moi, je suis vraiment.
Tu peux ne pas être d'accord.
Non, je suis complètement d'accord avec tout ce que Vikash dit. J'ai juste grandi dans une famille très apolitique, et donc c'est compliqué pour moi, peut-être, d'affirmer mes positions. Mais évidemment, je me bats, moi, à travers mon boulot aussi, et je vois que le livre, et comme tu dis, les enfants sont les gens qu'il faut éduquer. Et ça sert à rien de parler aux vieux, ils ont déjà leurs idées préconçues. Et donc, ce que je veux, moi, dans mon travail, c'est vraiment pouvoir influencer de bonne manière.
Oh, bah, merci pour les vieux. Bon matin. Je perds pas la boule. C'est édité chez Revival. Merci beaucoup, Vikash Dorasso et Émilie Glisson, d'être passés ce matin. Merci.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
On se retrouve lundi pour un nouveau réveil culturel. D'ici là, merci d'être avec les petits matins de France Culture.
Culture, l'esprit d'ouverture.
On se fait une toile à Deauville ?
Rendez-vous sur les planches ce samedi avec Antoine Guillot.
Samedi, plan large et en direct du Festival du cinéma américain de Deauville, là où se projettent les rêves et les angoisses d'une Amérique tourmentée. Nous recevrons notamment un cinéaste en compétition et pas des moindres, Jonathan Nociter, l'auteur de Mondovino, qui avec son nouveau film Last Words, fiction post-apocalyptique et visionnaire, nous rappelle combien le cinéma, plus que jamais, nous est indispensable.
Plan large, en direct depuis l'hôtel Barrière le Normandie Deauville, ce samedi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr. Tout est politique. Le samedi sur France Culture, Hervé Gardette.
Ils sont 1 million de pratiquants en France, les chasseurs. Pour faire valoir leurs intérêts, ils se posent en principaux défenseurs du monde rural. Mais quel est leur véritable poids politique? Nous en discutons ce samedi avec Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs.
Politique, le samedi à midi et 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Troupes de théâtre, radio libre, festival, voici les associations qui souffrent le plus en ces temps de crise économique. Le mouvement associatif a fait les comptes. Plus de 30 000 structures pourraient disparaître ces prochains mois. Cela représente des milliers d'emplois, vous l'entendrez. Un cri d'alarme à qui intervient alors qu'est présenté le plan de relance du gouvernement français. 100 milliards d'euros, dont 30 milliards pour l'écologie. Nous nous demanderons si c'est assez. Et puis 4,5 milliards pour la SNCF. Avant d'investir, l'entreprise devra combler sa perte d'activité. Explication à suivre. Dans ce journal encore, le vote par correspondance aux États-Unis, un casse-tête et un possible vecteur de fraude. Et puis, le nouveau passeport taïwanais, la mention République de Chine y est réduite. 30 000 associations sont donc menacées de disparition et avec elles, des milliers d'emplois sont en danger. L'alerte est lancée par le réseau Recherche et Solidarité en partenariat avec le mouvement associatif. Ce sont les conséquences de la crise du Covid-19 avec des adhérents de moins en moins nombreux et des financements en chute libre. État des lieux ce matin avec Thibault Lefèvre.
Parmi les structures les plus touchées, les 340 000 associations culturelles qui emploient un peu plus de 160 000 personnes. Des troupes de théâtre, des radios libres, des festivals qui souffrent aujourd'hui de l'absence de public et donc d'adhérents. Marie-Claire Martel est la présidente de la coordination des fédérations de culture.
C'est extrêmement galère. Il y a eu un arrêt des activités, donc un remboursement. 73% des associations culturelles employeuses, elles n'ont pas touché les subventions qui leur avaient été annoncées en début d'année, parce que les municipales ont été décalées. Donc un maire qui n'avait plus de carnet de chèques pendant la crise, évidemment, n'a pas versé les subventions promises. Et là, c'est massif pour l'emploi artistique.
Les associations sont en partie financées par le Fonds de développement de la vie associative, avec des dotations beaucoup trop faibles aujourd'hui, selon la déléguée générale du mouvement associatif Frédéric Frinder, pour faire face à la crise.
C'est 33 millions d'euros en année courante. Il faudrait pouvoir augmenter très très significativement ce fonds, avec un fonds spécifique de soutien aux associations en difficulté. À moins de 100 millions, franchement, on n'arrivera pas à répondre vraiment à la demande des structures associatives.
Un peu moins de 2 millions de salariés travaillent aujourd'hui dans des associations. C'est environ 10% de l'emploi privé.
Alors, les associations seront-elles directement aidées par le plan de relance? Il faudra le voir au cas par cas. Ce plan de relance a été présenté hier. Il représente une enveloppe de 100 milliards d'euros. Et par exemple, sachez qu'un milliard ira pour l'économie sociale et solidaire. L'emploi est toujours la priorité du gouvernement. Dans ce plan de relance encore. Nous notions dès hier les 30 milliards d'euros dédiés à la transition écologique. C'est un autre chantier prioritaire pour Emmanuel Macron. L'économiste Henri Sterdignac est chercheur affilié à l'OFCE, membre du collectif Les économistes atterrés. Il est plutôt déçu par cette enveloppe de 30 milliards.
La particularité du plan, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est son horizon. Alors bien sûr, 30 milliards sur 2 ans, ce n'est pas rien. Mais il faut bien voir qu'on estime généralement qu'il faut une centaine de milliards par an pour la transition écologique, y compris la rénovation des logements, y compris le soutien aux énergies renouvelables, y compris la rénovation urbaine. Donc effectivement, c'est un point de départ utile, mais ça ne suffit pas. Et ce qu'on peut regretter, bien sûr, c'est que ça ne s'inscrive pas dans un programme cohérent à moyen terme. Est-ce qu'il fallait réduire de 10 milliards les impôts à la production des entreprises, sachant que ces 10 milliards, on en aura besoin pour la transition écologique? C'est une question qu'on peut se poser.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Voilà pour les frustrations des écologistes. Côté entreprise, maintenant, c'est la SNCF qui pourrait toucher gros. Plus de 4,5 milliards d'euros pour la reconquête du rail, selon l'expression du Premier ministre. Mais est-ce une reconquête ou un plan de sauvetage, Annabelle Grelier?
Déjà, près de la moitié de l'enveloppe, 2 milliards d'euros, servira à combler quelque peu la perte d'activité qu'accuse la SNCF depuis décembre avec les grèves contre la réforme des retraites, suivies de la crise sanitaire et du confinement. Sans trop de détails, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, promet que le reste de l'enveloppe, soit 2,7 milliards d'euros, ira à l'entretien du réseau, aux petites lignes et aux trains de nuit, ce qui fait déjà beaucoup, et de se demander ce qu'il va bien pouvoir rester pour le fret. Le fret qui tient particulièrement à cœur au Premier ministre, Jean Castex veut soutenir le fret ferroviaire pour favoriser la transition écologique. Plus de trains, ce sont moins de camions sur les routes et donc moins de pollution. Mais le fret part de loin. Il représente aujourd'hui seulement 9% de part de marché du transport de marchandises en France, quand la route rafle les 90% restants. La SNCF n'assure d'ailleurs que la moitié du transport de marchandises. Il faut se souvenir que l'ouverture à la concurrence européenne a déjà 10 ans et les concurrents allemands ou belges sont maintenant bien installés. 200 millions d'euros sur 2 ans, c'est donc la ligne sur l'ensemble de l'enveloppe qui devrait être allouée à la SNCF fret. C'est évidemment très très loin des 16 milliards d'euros qu'il faudrait investir, selon la profession, sur les 10 prochaines années pour parler d'un véritable essor du fret ferroviaire. En attendant, il faudra s'en contenter. Et le gouvernement d'ailleurs a du mal à cacher son agacement vis-à-vis de la SNCF et surtout ses syndicats, la CGT en tête, qui annonce pour le 17 septembre une grève dans le cadre d'une journée d'action plus large avec la FSU, Solidaire et des organisations de jeunesse.
Plus de 7000 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures, un niveau comparable à la veille. Notons aussi que le nombre de patients en réanimation à l'hôpital progresse, lui, significativement pour la 3e journée consécutive. Le Covid-19 qui se déclare dans les écoles au fil des rentrées des élèves, une quinzaine d'établissements sont concernés pour le moment, entre fermeture d'école ou fermeture de classe. Au cas par cas, vous le comprendrez dans le journal de 7 heures tout à l'heure sur France Culture. Notons qu'hier soir, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé que les mesures de chômage partiel seraient prolongées si nécessaire. 6h36 sur France Culture. Nous partons maintenant aux États-Unis où les premiers bulletins de vote par correspondance sont envoyés aujourd'hui aux électeurs de Caroline du Nord. Ce sont les premiers à pouvoir voter à 2 mois de la présidentielle. Le vote par correspondance est un sujet important en période de crise sanitaire et sensible car il est visiblement difficile à organiser, Valérie Cantier.
Aux États-Unis, pas besoin de procuration pour voter. Si l'on prévoit d'être absent lors d'un scrutin, on peut voter en amont par courrier. C'est le cas par exemple des militaires. Mais cette année, en raison du Covid-19, les électeurs sont appelés à voter le plus possible par correspondance pour éviter de se déplacer dans un bureau de vote. Plusieurs États ont donc assoupli les conditions de vote par courrier. On attend du coup jusqu'à 75% d'électeurs américains qui pourraient voter par correspondance. Or, qui vote habituellement par correspondance, ceux qui n'ont pas la possibilité de poser un jour de congé, puisque le vote aux États-Unis a toujours lieu un mardi, ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui n'ont personne pour s'occuper de leurs enfants. Bref, les plus précaires souvent. Or, les plus précaires, et notamment les Noirs, votent plutôt démocrates. Voilà pourquoi Donald Trump critique le vote par correspondance. Il crie à la fraude et annonce une baisse du budget de la poste. Les démocrates l'accusent de vouloir démanteler ce service public juste avant l'élection, car budget de la poste en baisse signifie délai de distribution plus long et potentiellement bulletin de vote qui arriverait trop tard.
Valérie Cantier pour France Culture. Administrée par la Chine, Taïwan s'inquiète de plus en plus de l'influence de Pékin et souhaite s'en détacher. Symbole de cette prise de distance, la modification des passeports taïwanais. Le gouvernement élu démocratiquement l'a annoncé cette semaine. C'est sur la couverture du passeport qu'il y a des changements, Adrien Simor.
Taïwan, écrit en lettres capitales, et son nom officiel, la République de Chine, réduit au strict minimum. C'est la couverture du nouveau passeport taïwanais dévoilé par le gouvernement. Luo Jichang, député du Parti démocrate progressiste, en avait fait son cheval de bataille.
À cause de l'épidémie, les Taïwanais qui voyagent à l'étranger s'inquiètent d'être pris pour des Chinois. Car sur la couverture de notre passeport actuel, il y a écrit « République de Chine ». Il y avait un vrai besoin de pouvoir distinguer davantage les deux pays.
Taïwan est un pays indépendant de fait, mais se nomme la République de Chine depuis que les nationalistes chinois s'y réfugient en 1949. Pourtant, selon un sondage réalisé en juillet dernier, 67% des habitants de l'île se définissent aujourd'hui comme étant uniquement taïwanais. C'est le cas de Tsayun, étudiante en éducation spécialisée de 20 ans.
La majorité de la population ne se sent pas chinoise, mais taïwanaise. Bien sûr, c'est juste un changement sur la forme. Mais enlever le mot « Chine » de notre passeport, c'est bien plus en accord avec notre identité.
Le nouveau passeport conservera toutefois le terme de « République de Chine », mais en tout petit caractère. Une manière de ménager Pékin qui menace d'envahir Taïwan en cas de déclaration d'indépendance. Boulou, sa camarade de classe, acquiesce.
J'espère qu'un jour, on pourra enlever complètement le mot Chine pour n'avoir que Taïwan. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible, il faut y aller pas à pas.
Les députés souhaitent désormais modifier le nom de la compagnie aérienne taïwanaise China Airlines. Mais la tâche s'annonce plus compliquée. La pression de Pékin pourrait empêcher les avions taïwanais d'atterrir dans de nombreux aéroports.
Adrien Simor depuis Taipei pour France Culture. Très rapidement, la météo du jour en France métropolitaine. Quelques pluies sont attendues ce matin sur la Bretagne, du soleil partout ailleurs et 15 à 20 degrés dans la matinée. Il est 6h40, c'est l'heure du Journal des idées sur France Culture. Avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous revenez, Jacques, sur certaines des images les plus marquantes de la période du confinement. Celles des animaux sauvages, qui investissent librement les villes désertées par les humains. Alors, si ce phénomène s'est amplifié, il n'est pas vraiment nouveau, Jacques.
Oui, c'est ce que souligne Joël Zask dans un livre qui vient de paraître sous le titre « Zoo Cities, des animaux sauvages dans la ville ». D'après elle, ils seraient de plus en plus nombreux à s'introduire dans le milieu urbain en quête d'un nouvel habitat alors que le leur se dégrade à grande vitesse et que les villes, quant à elles, reverdissent. Des renards dans les jardins de Londres, des léopards dans les artères étroites de Bombay, des coyotes dans les parkings de New York. Il suffit qu'un canard se dandine sur un passage clouté pour que nos représentations les plus ancrées soient remises en question, relève la philosophe, qui postule une ville multispéciste qui ne saurait plus penser contre eux, ni d'ailleurs pour eux, mais avec eux. Car il y a belle lurette que nous coexistons en milieu urbain. À Paris, plus de 1500 espèces ont été recensées, dont des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des crustacés et même des méduses dans la Seine. Certaines espèces ont d'ailleurs déjà plié bagages, comme les grillons du métro, arrivés il y a une centaine d'années à bord de cageots de légumes et qui ont trouvé là un écosystème idéal à température constante. Mais le remplacement du ballast qui conservait la chaleur par du béton froid et surtout l'interdiction de fumer qui les priva de leur nourriture principale, le mégot, mit fin à cette cohabitation qui pouvait à l'occasion enchanter le parcours des passagers en évoquant un coin de campagne ensoleillé entre deux stations. Cela dit, la pandémie a montré que toutes les espèces d'animaux ne sont pas bonnes à fréquenter car elles peuvent s'avérer à leur corps défendant de véritables réservoirs à virus comme nos familières chauves-souris au vol frôlant. En Chine, dans la partie réservée aux bêtes sauvages du marché de Wuhan, d'où est partie l'épidémie de Covid-19, il y avait aussi des pangolins, des louveteaux, des renards, des écureuils et même des crocodiles. Il est vrai qu'ils n'étaient pas venus là pour la compagnie, mais ils avaient été capturés. Si nous sommes disposés à cohabiter en partageant notre espace vital, mieux vaut donc prendre ses distances et quelques précautions. Cela dit, comme le montre Frédéric Keck dans son dernier livre « Les sentinelles de la pandémie », en Asie, certains animaux sont utilisés en lisière des grands élevages pour avertir de la menace d'une contagion, oiseaux migrateurs, poulets ou porcs, ou encore le furet, utilisé contre la grippe car c'est le seul mammifère qui éternue comme les humains. La dernière livraison de la revue Billboard s'intéresse à un autre type de relation entre les vivants humains et non humains, la pratique partagée du leurre. Camouflage ou mimétisme des papillons aux ailes translucides, des orchidées imitant les formes des insectes pollinisateurs ou encore leurres à poulpe des pêcheurs des îles Tonga en Nouvelle-Zélande. Pour l'anthropologue Hélène Artaud, l'art du leurre révèle une relation dans laquelle le sensible, dans ses dimensions tant sensorielle qu'affective, constitue la matière ambivalente du lien interspécifique. Valérie Glansdorf évoque les travaux du naturaliste et peintre américain Abbot Thayer, qui a étudié la livrée des animaux comme technique de camouflage, une sorte de moyenne des paysages habités par l'animal pour se fondre dans le décor, aussi bien comme prédateur que comme proie potentielle. Et lorsque leurs contours peuvent les trahir, s'ils se déplacent, de nombreux animaux disposent également d'une coloration disruptive des motifs disposés pour briser la délinéation de la forme animale, comme chez les serpents. Les motifs disruptifs ont l'effet ingénieux de désarticuler le corps, de le découper visuellement en morceaux, se confondant chacun avec un élément de l'habitat. Pour lui, pas besoin de motifs disruptifs, il en est un à lui tout seul quand il piaille à l'aube sous les fenêtres. Le petit piaf stridulant est à l'honneur dans la revue Salamandre. Si on le trouve partout, dans les campagnes comme en ville, ce n'est pas parce qu'il est ordinaire, mais parce qu'il est extraordinaire, plaide la une. Volatile le plus répandu sur Terre, indigène ici ou introduit ailleurs, le moineau colonise tous les continents excepté l'Antarctique. C'est que depuis des millénaires, il a suivi l'homme comme son ombre et ses graines de céréales, jusqu'à devenir une icône de la culture populaire dans les rues de Paris. Effronté et envahissant Picassiette, le Pierrot vit en bande. C'est par mimétisme et sans camouflage que la môme piaf s'est ainsi surnommée, tout comme le passereau. Elle était de petite taille, de voix stridente et née dans la rue. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier. Alors avec Bruno David à 6h05 tout à l'heure, on apprenait que les blattes adoraient les cheveux et le dentifrice. Avec vous, on apprend que le furet éternue. Voilà, j'ai appris plein de choses ce matin. Bonjour.
Cette nouvelle chronique, oui, en début de notre tranche, un peu après 6h.
6h05, le monde vivant. Alors...
Voilà, au sommaire aujourd'hui des enjeux internationaux, Julie, pourquoi les États baltes surveillent d'aussi près la crise biélorusse ?
Oui, la semaine dernière, on évoquait la crise politique en Biélorussie, vue depuis les campagnes de cette ancienne république du RSS. Ce matin, il s'agit de parler des enjeux régionaux de cette crise, mais depuis, là encore, une toute petite échelle. C'est une bande de terre plate qui, du nord au sud, sépare la Lituanie de la Pologne et d'est en ouest, permet de relier la Biélorussie à l'enclave russe de Kaliningrad. Cette bande de terre s'appelle Trouée de Souvalki et les États baltes la considèrent comme leur talon d'Achille face à la Russie. Bonjour Céline Bayou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargée de cours à l'INALCO et rédactrice en chef de la revue en ligne Regard sur l'Est. Est-ce qu'on peut décrire la Trouée de Souvalki ? On a mis une photo sur le site des enjeux internationaux, c'est très champêtre.
Oui, c'est très champêtre. On est un peu à la campagne. On a des petites villes à proximité, en tout cas du côté polonais notamment. Et comme vous le décriviez, c'est une bande de terre plate. Ce sont des forêts, quelques lacs. Et la bande elle-même fait à peu près 80-90 kilomètres.
Vous m'aviez dit tout à l'heure, on peut trouver des hôtels qui, à une époque, ont fleuri, à une époque où la Pologne et Kaliningrad ont établi des relations, mais qui sont à l'abandon aujourd'hui.
Qui sont en difficulté parce qu'en fait, il y a eu un accord de facilitation de passage de la frontière pour les habitants de Kaliningrad, qui sont donc russes, et qui donc ne sont pas dans Schengen, par définition. Et donc, il y avait eu des accords entre l'enclave de Kaliningrad et la Pologne et la Lituanie de l'autre côté pour faciliter les passages de frontières pour la population, pour qu'elle puisse aller et venir. Et du coup, dans cette logique-là, avait fleuri enfin un certain nombre d'hôtels, de supermarchés qui permettaient aux gens, aux Kaliningradois, donc de venir faire leurs courses, surtout côté polonais, côté lituanien, et puis aux autres, de venir en Russie peut-être bénéficier d'une essence un peu moins chère. Et puis à un moment donné, la Pologne a décidé de refermer pour des raisons politiques évidentes, à mesure que les relations avec la Russie se dégradaient.
Donc il faut expliquer le scénario qui fait peur aux Pays-Baltes, c'est que l'armée russe arrivant par l'Est, donc via la Biélorussie, se poste tout le long de cette bande de Souvalki sur 80 km, de manière à former une chaîne militaire donc jusqu'à son territoire, Kaliningrad, puisque c'est une enclave russe, et qu'elle empêche ainsi les pays de l'OTAN d'intervenir pour porter secours aux pays baltes. Mais d'abord, pourquoi les États baltes seraient aujourd'hui dans le collimateur russe?
Oui, c'est tout à fait la question, c'est-à-dire porter secours, pourquoi? Donc on est en effet dans l'hypothèse où il y aurait un danger militaire pour les Baltes venant de Russie, qui est une hypothèse que les Baltes retiennent évidemment depuis longtemps, et c'est bien d'ailleurs l'un des moteurs de leur intégration à l'OTAN. Mais de toute façon, l'OTAN, de façon générale, considère que dans cette zone, c'est son talon d'Achille. C'est-à-dire que à partir du moment où on a cette trouée de Suwalki, on sait que potentiellement, les États baltes peuvent être coupés dans leur accès terrestre du reste de leurs partenaires de l'OTAN. Et là où les choses se compliquent, c'est que à Kaliningrad, les installations militaires sont telles, et notamment par rapport à la base maritime qui est installée à Kaliningrad, et puis les systèmes aériens et de défense aérienne et systèmes de missiles qui y sont installés, et qui font que du coup on a ce qu'on appelle une bulle de déni d'accès, c'est-à-dire que potentiellement l'OTAN ne peut pas accéder aux États baltes ni par air, ni par mer, ni par terre.
D'autant que la Chine avait envoyé il y a quelque temps 3 navires de guerre, je crois, pour accompagner la marine russe dans des manœuvres en mer Baltique. En tout cas, l'OTAN peut difficilement intervenir par cette voie-là.
Oui. Alors la Chine, c'était très ponctuel, ouais. C'était dans le cadre d'exercice. Mais de toute façon, sur toute cette problématique, on est vraiment sur de la posture et du discours. C'est-à-dire, après, on peut réfléchir à la potentialité ou la réalité de cette menace. À partir du moment où on considère qu'il y a une potentialité, on peut calculer un pourcentage de risque. De toute façon, il existe, donc il faut qu'il soit pris en compte. Et là, on est vraiment devant un questionnement, en tout cas. Je ne dis pas forcément que c'est un risque réel ou très élevé, mais il y a un questionnement.
Mais il y a bien des forces de l'OTAN positionnées dans les États baltes aujourd'hui?
Complètement, et c'est bien pour ça d'ailleurs que les Baltes l'ont voulu avec beaucoup de force, et que l'OTAN a accepté en 2016 donc ce qui se positionne évidemment dans les suites de l'affaire de Crimée de 2014. Donc l'OTAN a accepté, à la demande des Baltes et des Polonais, de créer ce qu'on appelle la défense avancée renforcée dans les États baltes et en Pologne, avec le déploiement de forces militaires de l'OTAN dans chacun de ces quatre pays sur une base rotationnelle. La France y participe d'ailleurs. Actuellement, on a 300 hommes qui sont en Lituanie. Et par ailleurs, on participe aussi à une défense aérienne, enfin la surveillance aérienne pour les États baltes. Donc pour les Baltes, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il y a une présence physique rotationnelle, certes, mais depuis 2017 quasiment permanente dans ces pays-là, ce qui veut dire que on réduit un peu cette menace potentielle.
Et de l'autre côté de la trouée de Suwalki, donc en Pologne, il n'y a pas encore de base militaire de l'OTAN. Varsovie s'était dite prête à en accueillir une, mais ça n'est toujours pas le cas. Céline Bayou, ça
alors,
en est où?
C'est toujours pas le cas, c'est pas abandonné. Le fameux Fort Trump que demandaient les Polonais au plus grand plaisir de Trump du fait de la façon dont il l'avait baptisé n'est pas encore fait. Ça veut pas dire que c'est abandonné. L'autre chose, c'est que l'été dernier, on en a beaucoup parlé, le fait que les États-Unis retirent certaines de leurs troupes d'Allemagne. Les Polonais ont obtenu le fait que certaines seront déployées en Pologne. Donc on a un renfort. Ça veut dire qu'on aura, parce que c'est pas encore fait, on aura un renfort. Renforcement numérique, ce qui fait aussi, ce qui rassure beaucoup les Baltes, qui se disent que du coup il y a une proximité avec ces soldats américains et qui pourront, voilà, plus du point de vue balte et polonais, plus les Américains ou plus l'OTAN est numériquement présente, et plus ça les rassure. Et on est sur des mesures d'ailleurs tout à fait officiellement de réassurance, rien de plus.
Et l'OTAN avait d'ailleurs fait un gros exercice militaire en 2017 et sans doute d'autres depuis, mais c'était un exercice Iron Wolf dont le but était de tester la réactivité du bataillon en Pologne pour voir s'il parvenait facilement et rapidement à traverser cette trouée de Suwalki. Alors,
exactement,
c'est concluant.
Donc, c'est concluant, enfin relativement. Après, la question, c'est la rapidité, en fait. Tout le problème, c'est la rapidité d'action. Et donc, vous faites allusion à cet exercice en 2017. En 2017, il y a eu aussi un exercice de l'autre côté, c'est-à-dire du côté russe, qui est tout à fait classique, hein, puisqu'on a des exercices de part et d'autre et qui sont tout à fait prévisibles, prévus, annoncés, etc. Et donc, ce fameux exercice Zapad en 2017, qui avait beaucoup inquiété du côté polonais et balte, et qui alors pourquoi il avait inquiété? Parce que il faisait intervenir en effet des troupes russes à Kaliningrad, et russes et biélorusses au terme des accords communs entre ces deux pays, du côté biélorusse et notamment à toute proximité de la trouée de Suwalki. Alors rien n'avait débordé, il n'y avait eu aucun incident, mais tout ça c'est du message, c'est-à-dire de part et d'autre, aussi bien de l'OTAN que de la part de la Russie, Biélorussie, on adresse à l'autre un message pour lui dire on est là potentiellement et on peut potentiellement, si on le veut, intervenir rapidement.
Céline Bayou, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, c'est certes un allié du Kremlin, mais un allié très versatile, on l'a beaucoup dit, qui n'hésite pas aussi à se rapprocher de l'OTAN, voire à faire de ce rapprochement une forme de chantage face à Moscou, quand il a accueilli, par exemple, en grande pompe, Mike Pompeo à Minsk en février dernier. Enfin bref, il n'est pas complètement sûr qu'il laisserait entrer des troupes russes pour rejoindre Kaliningrad, sauf qu'il y a, et c'est ce qui fait le plus peur aux États baltes, il y a un projet d'union entre la Biélorussie et la Russie qui est dans les tiroirs depuis les années 90. Est-ce que vous le sentez s'accélérer, ce projet, à la faveur de la crise biélorusse?
Alors, déjà, oui, Loukachenko, partenaire versatile pour Moscou. En 2017, d'ailleurs, il avait fait plusieurs fois des remarques par rapport à cet exercice Zapad dont je parlais tout à l'heure, en voulant s'assurer qu'il y ait des observateurs du côté occidental, parce que lui-même avait l'air un petit peu angoissé sur le fait que est-ce que les chars russes allaient bien repartir une fois l'exercice terminé. Ce qu'on observe ces jours-ci, mais c'est juste une observation, il va falloir voir comment les choses évoluent en Biélorussie, c'est qu'il a totalement basculé au cours des dernières semaines du côté russe. Hier, le Premier ministre russe était à Minsk, aujourd'hui le ministre de la Défense biélorusse sera à Moscou. On sent vraiment qu'il y a un renforcement, et surtout il y a un discours de Loukachenko beaucoup plus allant du côté de la Russie, et notamment sur la question militaire. Le discours de Loukachenko étant de dire aujourd'hui, il y a un risque pour mon pays, aux portes de mon pays, et notamment du côté justement de la frontière lituanienne et de la frontière polonaise, et je crains pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Biélorussie, donc j'ai besoin de la Russie. Il y a un véritable appel vers la Russie. Ça ne préjuge pas de la suite.
Mais lui, Alexandre Loukachenko, a commencé à avancer des hommes près de cette trouée.
Alors, il a organisé vers le 20 août un exercice qui, pour le coup, était inopiné et qui se trouve juste à la frontière, justement, à proximité de la trouée, puis un tout petit peu plus au nord, à proximité de la frontière avec la Lituanie, qui est un autre point stratégique, puisque c'est à proximité de la fameuse centrale nucléaire que construisent les Russes en Biélorussie, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière lituanienne.
Et qui fait peur aux Lituaniens.
Qui fait très peur aux Lituaniens.
Merci beaucoup Céline Bayou d'avoir été avec nous ce matin. On peut vous lire sur le journal en ligne Regard sur l'Est, dont vous êtes rédactrice en chef. Merci d'être venue nous éclairer sur cette trouée de Suwalki.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Comment se propagent les complots imaginaires? Mécanique du complotisme, série en podcast original. Rédigée en 1901, dans des circonstances encore floues, ce serait le compte-rendu de réunions secrètes au cours desquelles les Juifs prépareraient un plan de conquête du monde. Rapidement déjoué comme un faux, il va pourtant circuler dans le monde entier.
Il faut troubler constamment, dans tous les pays, les rapports du peuple et du gouvernement.
Les protocoles des sages de Sion, le complot centenaire, en podcast original sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées.
Avis subjectif, expertise, coup de cœur ou flop, l'actualité artistique par Lucille Comeau.
Que penser de la rentrée littéraire, de cette nouvelle mise en scène d'Iphigénie ou du dernier film de Christopher Nolan? Chaque vendredi, la table appartient à des chroniqueurs passionnés qui aborderont deux disciplines différentes pour que vive en bonne entente la dispute esthétique.
La critique, le vendredi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57, dans quelques secondes. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Bon Guillaume, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas faire tous les jours, on ne peut pas faire tous les jours la même humeur?
Bah non, sinon on vous reproche d'avoir un bullshit job, un job à la con, si vous me passez l'expression. L'expression, on la doit à l'anthropologue David Graeber, disparu hier à l'âge de 59 ans. David Graeber était un universitaire américain particulièrement sympathique, une sorte de Mick Jagger de l'anthropologie. Il a eu un rôle central dans les manifestations qui se sont déroulées à New York en 2011, des manifs connus sous le nom d'Occupy Wall Street. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez par exemple réécouter son passage au matin en 2018. Et si je ne peux pas vous livrer chaque jour la même humeur, c'est qu'hier j'évoquais ce scandale anglais, vous savez, où de grands cabinets de conseil ont été grassement rémunérés par le gouvernement de Boris Johnson pour l'aider à gérer la pandémie, avec les mauvais résultats que l'on sait parmi ces factures réglées par le contribuable anglais. On en trouve une de près d'un demi-million de livres destinée à formuler, je cite, le narratif du programme de test anglais, le test Covid. Comprenez, puisque nous n'avons pas assez de tests, eh ben on va formuler un baratin pour endormir les gens. Eh bien, c'est exactement ça, un bullshit job, selon Graeber. Un métier qui ne se contente pas d'être très bien payé, mais qui se révèle aussi inutile et même mieux, socialement nuisible. Le prototype du job à la con pour Graeber, c'est un travail au sein d'une grande entreprise, bien rémunérée, dotée de tous les avantages en termes de statut, de prestige social, qui ne recouvre en réalité rien de sérieux. Les directions des ressources humaines ont ainsi inventé des pelletés de titres comme directeur de l'expérience client ou bien des Future Creative Officer, responsable de la création au futur. D'ailleurs, si vous cherchez des titres de ce genre, il existe sur Internet un Bullshit Jobs Generator. La permanence de ces Bullshit Jobs est devenue particulièrement insupportable pendant le confinement, où l'on s'est rendu compte que certains travaux pénibles étaient à la fois les plus mal payés et aussi les plus indispensables. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait une blague qui disait « Le communisme, c'est ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. » Et bien le capitalisme, selon Graeber, c'est l'inverse, ils font semblant de travailler et on fait vraiment pas semblant de les payer.